Fabien Fer, bonjour.
Oui, bonjour.
Dans un communiqué, le ACR fait état d'au moins 100 000 civils qui ont fui leur foyer à cause des conflits, bien entendu, pour trouver asile dans le territoire des Bénis. Alors, où sont-ils localisés précisément et comment vivent-ils?
Donc, il est vrai que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés est très préoccupée par cette situation qui s'est aggravée ces dernières semaines dans le territoire de Bénis. Depuis la mi-décembre, donc, il y a des attaques qui sont menées par des groupes armés contre un grand nombre de villages dans la chefferie de Ouattalinga. La majeure partie de ces personnes sont des femmes, des hommes et des enfants qui ont trouvé refuge à Nobili et ses alentours, qui se situent tout près de la frontière avec l'Ouganda.
Quels sont les besoins les plus pressants de ces populations et des communautés qui les accueillent, et comment le ACR s'y prend-il pour leur apporter l'assistance?
Donc ces personnes vivent dans des conditions très précaires. Les principaux besoins sont la nourriture, le logement, l'eau, ainsi que l'accès à l'éducation. Il faut savoir qu'il y a aussi la population hôte qui est sur place et qui accueille généreusement ces déplacés, mais qui a également besoin d'assistance, étant donné que les différentes infrastructures sur place ne sont pas en mesure en fait d'absorber ce grand nombre de personnes.
Et qu'est-ce que vous, le ACR, vous faites?
Donc si je prends l'exemple de la semaine dernière par exemple, on a commencé la distribution de bâches qui serviront à construire des abris d'urgence pour les déplacés internes. Nous mettons en place aussi des structures communautaires afin que la communauté puisse identifier et répondre aux violations des droits de l'homme.
100 000 des personnes déplacées, ce n'est pas peu. Est-ce que vous croyez que cette assistance est suffisante pour vraiment la population des déplacés?
Il y a toujours besoin d'assistance supplémentaire. On a toujours besoin de plus de partenaires sur place justement pour répondre à ces situations. Donc c'est des déplacés internes qui ont des besoins urgents, mais il y a aussi également la population hôte.
Oui, justement, et on a l'impression que vous êtes seul sur le terrain. Que font les autres agences? Parce que dans les communiqués, on parle par exemple de l'occupation des écoles par les déplacés et de leurs mauvaises conditions de vie.
Il est vrai que le HR est une des agences qui est sur le terrain. Il y a d'autres partenaires qui sont sur place, dont des ONG. On a le Danish Refugee Council qui est sur place. Samaritan est aussi sur place. Mais je voudrais aussi préciser que la réponse de l'aide humanitaire est coordonnée par OCHA, qui est le bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Donc on travaille en étroite collaboration donc avec eux et d'autres partenaires. Prends l'exemple d'un programme de profilage que nous mettons en place en ce moment justement pour profiler les personnes dans le besoin, qui va permettre d'améliorer notre assistance.
Et je comprends que vous commencez votre assistance, mais quelles sont les grandes difficultés que vous rencontrez pour l'instant pour venir vraiment en aide à ces déplacés?
Donc la difficulté, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes. On parle de 100 000 personnes qui sont déplacées et qui ont besoin d'assistance. On a besoin de plus de besoins sur place pour leur venir en aide.
Mais cette situation ne date pas quand même d'aujourd'hui, hein. Selon votre communiqué, c'est depuis mi-décembre 2019 que cette situation a commencé. Alors pourquoi les ACR a-t-il attendu pour lancer la sonnette d'alarme quasiment 4 mois après? Qu'est-ce qui justifie ces retards?
Donc ça fait depuis mi-décembre que nous constatons qu'il y a une aggravation de la situation dans cette région. Donc ça fait un peu plus d'un mois en fait que nous sommes sur le terrain afin d'identifier les besoins les plus pressants et venir en aide à la population. Donc nous produisons des rapports hebdomadaires qui sont disponibles et accessibles sur notre site internet et qui sont partagés avec le public justement pour informer de cette situation. Mais il est vrai que ce communiqué de presse spécifiquement a été partagé au niveau global. Et c'est peut-être pour cette raison-là que ça a fait aussi un écho plus important.
Est-ce qu'on peut imaginer aussi les conséquences humanitaires de cette affaire dans un bref avenir, si jamais les humanitaires ne se mobilisent pas?
Je pense clairement que oui. Enfin, il faut qu'il y ait des personnes qui soient sur place justement pour venir en aide à ces populations. Donc je répète à la fois aux déplacés internes, mais également à la population locale sur place. Donc comme je disais, donc des besoins en termes de nourriture, en termes d'abri, en termes d'eau et d'accès à l'éducation. Je peux prendre l'exemple des écoles qui n'ont soit pas la capacité d'accueillir des élèves supplémentaires ou qui sont tout simplement fermés parce que des personnes déplacées y ont trouvé refuge.
Les ACR chercheraient 150 millions de dollars pour l'assistance aux réfugiés et déplacés en RDC. Ils n'auraient reçu en ce début d'année que 4% de ce montant. Certains observateurs reprochent donc aux ACR de ne pas faire assez de plaidoyer auprès des donateurs et d'autres bailleurs de fonds. Et qu'est-ce que vous en dites?
C'est vrai que nous sommes encore au début de l'année et nous recevons souvent nos financements tout au long de l'année, de l'année 2020. C'est vrai que ce genre de communiqué de presse que nous produisons fait partie d'une stratégie donc de plaidoyer justement pour d'une part informer le public mais également les donateurs sur les problèmes qui se passent en RDC et également montrer quel genre d'assistance nous pouvons apporter justement pour venir à ces personnes dans le besoin.
Fabien Fèvre, je vous remercie.
Je vous remercie.